que le plus simple, c'est de commencer par justement la question de la critique des médias. Je pense que ce qui serait pas mal dans ce qu'on va essayer de faire dans le numéro, c'est de, enfin, qu'il y ait un aspect biographique aussi dans les entretiens. J'aurais bien aimé que vous me parliez un peu de votre parcours et de comment finalement vous en êtes arrivé à travailler sur les médias et sur la nécessité de travailler sur les médias.
C'est très long. Je viens de faire une interview avec une Argentine qui m'a pris 3 entretiens de 2 heures chacune, et rien que sur le Chili.
Ouais.
Rien que sur le Chili.
Il y a Michel aussi qui est en train de travailler.
Oui, oui. Oui, c'est un... Parce que c'est une trajectoire assez longue. Hein. C'est... Disons que je suis sorti de l'université en 1962, et donc ça fait déjà pas mal. Ça fait près de 44 ans, mais je dois vous dire que je n'ai pas travaillé tout de suite sur les médias. Et c'est ça qui est important. Parce que lorsque j'ai entrepris mes études, j'ai d'abord fait le droit. Et après le droit, j'ai, comme le droit donnait une formation plus générale, j'ai essayé de trouver, j'ai fait mes études en Belgique, à l'université de Louvain, et j'ai fait un doctorat en droit, et je me suis posé la question, parce que je désirais partir de toute façon à l'étranger. Après c'était l'Afrique, l'Amérique latine, puis il y a eu l'indépendance, c'était difficile de partir en Afrique, et plutôt à travers des contacts que j'ai eus, surtout à la cité universitaire où j'étais étudiant, c'est très important ça, et où j'ai appris réellement l'espagnol, j'ai eu des contacts qui m'ont mis en relation avec des tas d'universités latino-américaines. Mais disons, lorsqu'il s'est agi de trouver, une spécialité qui me donne un outil de travail, qui intéressait des universités, pas nécessairement des universités, mais disons des groupements, des ONG, à ce moment-là on ne parlait pas d'ONG, mais des organisations qu'on appelait d'aide, d'assistance au développement, de coopération, j'ai eu la possibilité de choisir entre 3 lieux. J'avais d'abord regardé l'IEDES. L'IEDES qui était, il faut dire que, c'est un moment, je parle de 60, c'est un moment où surgissent un ensemble d'institutions tout à fait nouvelles. D'ailleurs, c'est de cette époque-là que datent, par exemple, les 2 seules revues, les 2 premières revues sur le tiers-monde, notamment la revue d'IEDES, et puis l'autre, c'était une autre organisation qui s'appelle l'IRFED. L'IRFED était plutôt une, c'était une institution para-universitaire. Mais c'est très intéressant l'IRFED. L'IRFED, c'est l'Institut de recherche et d'études sur le développement harmonisé. C'est très intéressant parce que ça, l'IEDES, c'est plutôt en relation avec toute une école de pensée économique, mais qui a été en relation avec l'Amérique latine depuis un certain temps. Par exemple, des gens comme Pérou, qui ont fait partie de la mission Brodel-Lévi-Strauss au Brésil dans les années 30. C'est très important sous cette généalogie. Donc l'IEDES s'était rattaché à la Sorbonne à ce moment-là. Hein, puisque aujourd'hui c'est pas rien, mais avant c'était uniquement la Sorbonne. Et l'IRFED est plutôt, l'émanation d'un autre courant très fort au niveau idéologique, au niveau de la critique de l'économicisme, dans la notion, la critique économiciste de la notion ou des théories de développement, c'est, plutôt rattaché à ce qu'on appelait économie-humanisme. Économie-humanisme, qui est une organisation de réflexion sur, finalement, c'est pour ça qu'il y a le mot développement harmonisé, un développement harmonisé dans le sigle d'IRFED. Et il y avait ces deux organisations qui travaillaient fondamentalement en direction du tiers-monde. Et donc qui regroupaient des gens qui travaillaient sur le tiers-monde, qui venaient du tiers-monde. Et j'allais choisir entre les deux, et puis j'ai appris par hasard que Alfred Sauvy venait de créer un institut de démographie qui est un institut qui appartenait à la fac de droit et de sciences économiques de Panthéon. Et vous savez que des gens comme Sauvy étaient des gens qui étaient très liés au tiers-monde, puisque c'est lui qui a lancé en 52. Hein. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il proposait, disons, c'était des études postdoctorales, il proposait, disons, une vision interdisciplinaire du phénomène population, du phénomène démographique. Et disons qu'il avait groupé autour de cet institut des compétences vraiment remarquables. Hein. Des géographes, des statisticiens, des économistes, des historiens. Et oui, j'ai eu notamment comme prof, ce qui est assez étonnant parce qu'il était très peu connu à l'époque, et un peu disons, une personne complètement, disons, plutôt un peu un original, considéré comme un original, qui était le roi Gouran. Le roi Gouran, qui finalement nous introduisait à la paléontologie, mais aussi déjà à des thèses sur, disons, l'humanisation et l'extériorisation de la mémoire, etc. À ce moment-là, je me disais, c'est très intéressant, mais il est vraiment en lévitation par rapport à mes préoccupations à l'époque. C'est seulement par après que j'ai valorisé beaucoup des apports de l'Institut de démographie. Alors je me suis inscrit à l'Institut de démographie. Et à l'Institut de démographie, donc, j'ai décroché un diplôme de démographe. De démographe. Et disons que je dois dire que de là m'est venue toujours cette préoccupation pour essayer de croiser des regards. C'est-à-dire, la démographie dans les sciences sociales, c'est finalement, ne peut être approché que, évidemment, il y a un socle de la démographie, un socle statistique, un socle, il y a même des histoires, il y a vraiment des traditions de l'histoire de la population, comme on dit. Il y a une géographie de la population, etc. Il y a un anthropologue, tout ça. Mais disons, ce qui est intéressant dans la démographie, c'est que tous ces regards se croisaient autour d'un socle. D'un socle qui, à ce moment-là, était encore largement informé, parce que, disons, Sauvy, il y avait l'Institut national d'études démographiques, etc., mais disons que c'était quand même embryonnaire. Donc, pour moi, ça a été fondamental. Et c'est ce qui était intéressant aussi dans cette période, c'est que j'ai eu comme condisciple pour la première fois, par rapport à Louvain, où le seul étranger, pratiquement, était le premier Africain qui allait obtenir son doctorat d'État, son doctorat en droit, hein, quand j'ai terminé mon droit en 60 à Louvain, le seul étranger que j'avais dans mon cours, candidat à doctorat, c'était le premier Congolais, puisque c'était la Belgique, qui allait, disons, obtenir son doctorat. Et là, ici, en l'Institut de démographie, ce qui est intéressant, c'était que c'était complètement multinational. J'avais aussi bien des Pakistanais, des Iraniens, on était très peu, en fait, on était environ maximum entre 20 et 25. Mais chaque fois, c'était une nationalité, pratiquement. Et les Français étaient complètement squeezés, isolés à l'intérieur d'un groupe qui venait d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique. Et donc, pour moi, ça a été important. Ça a été important parce que c'était vraiment la première fois où dans une salle de classe, je retrouvais, disons, diverses façons de voir le monde. Surtout qu'à cette époque-là, on commençait précisément à parler du tiers-monde. Puisque, rappelez-vous, il y a un numéro, non seulement il y a eu les articles de Sauvy sur le mot tiers-monde, sur le lancement qui a lancé le mot tiers-monde, mais disons que l'Institut de démographie, l'INED, parce que moi l'Institut de démographie c'est l'IDUP, c'est rattaché à la fac de droit, l'INED avait publié un numéro sur le tiers-monde qui est tout à fait anthologique, qui était un numéro qui était coordonné conjointement donc par Sauvy et Balandier. Alors c'est très intéressant parce que c'était, disons, ce que je cherchais à l'IEDES ou à l'IRFED, finalement, je l'ai trouvé à l'Institut de démographie. Mais l'IRFED, à un moment donné, m'avait beaucoup séduit. C'était para-universitaire, c'était plutôt de la, je vous dis, dans une tradition plutôt économie humaine, c'est-à-dire une tradition Semaine sociale de France plutôt catholique. Ce qui m'avait séduit dans IRFED, c'est la trajectoire du gars qui avait fondé ça, qui est un dominicain, qui s'appelait Debré. Debré, avec un « et » à la fin. Pourquoi est-ce que ça m'intéressait, ce type-là? Parce que sa trajectoire était vraiment... D'abord, il avait travaillé comme conseiller du gouvernement démocratique en Amérique latine, fondamentalement la Colombie et le Brésil, mais c'est toute sa trajectoire antérieure. C'est un type qui sortait de Naval, hein, c'est un marin, en fait, un marin, et disons, il avait été le premier, c'est un breton, et il avait été le premier à finalement... se poser la question de, c'est déjà, il l'appelait à l'époque, la délocalisation de l'industrie de la pêche. Dans les années, fin des années 20, début des années 30, dans les années 30, il avait fait un premier rapport sur la possibilité de crise de la pêche en Bretagne. Parce que finalement, entraient d'autres nations. Donc l'expansion précisément du champ des acteurs de la pêche, des pêcheries. Et donc, c'est une problématique très intéressante et complètement nouvelle, puisque par après, elle a été abandonnée, et puis elle a été reprise, il y a très peu d'années, en fait. Alors, c'était une trajectoire qui m'intéressait, parce que c'était un type qui, en même temps, travaillait en Amérique latine, mais en même temps, avait une réflexion très large. C'est pas pour rien qu'il parlait de développement harmonisé, à un moment où il y avait un blocage sur la notion de développement. La notion de développement était plutôt assimilée à la modernisation, disons, au mythe diffusionniste. Donc, j'ai fait l'Institut de démographie et je suis, et, disons, c'est trop long à expliquer, l'Institut de démographie, disons, j'ai proposé mes services en envoyant simplement des courriers, je ne sais plus d'une cinquantaine de courriers, dans toutes les universités d'Amérique latine. J'avais essayé l'Afrique, là, ils m'avaient proposé quelque chose à Lovanium, c'est-à-dire la filiale de l'université de Louvain, tout près de... Enfin, à ce moment-là, ça s'appelait Léopoldville, maintenant c'est Kinshasa. Ouais. Bon, et ça ne m'avait pas tellement intéressé. C'était un peu... C'était des économistes, et ça ne me paraissait pas intéressant pour mon domaine, pour développer mon domaine. Et disons, j'ai donc écrit en Amérique latine, et j'ai eu plusieurs propositions. J'ai eu une proposition à Rio de Janeiro, une à Quito, et une fondamentalement à Santiago du Chili. Et disons, j'ai beaucoup hésité, et il faut vous dire, c'est très intéressant, parce qu'historiquement, il y a quand même un fil rouge, là. Le poste de Santiago, en fait, celui qui m'a mis sur la piste du poste de Santiago, c'est François Houtard. Que je connaissais par ailleurs parce que je l'avais rencontré dans des réunions sur le développement, puisqu'il y a déjà à ce moment-là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Houtard publiait une collection qui a été vraiment historique de ce point de vue-là, qui a été très importante, une collection qui s'appelait la collection de la Fédération de la collection Fédération des études socio-religieuses. Mais disons, ce qui était intéressant, c'est ça, la collection, il y a eu plus d'une vingtaine de bouquins, c'était des bouquins qui traitaient, il avait une conception, disons, de la sociologie socio-religieuse, si vous voulez, disons, très ample. Et disons, les bouquins de cette collection étudiaient aussi bien l'urbanisation, des approches anthropologiques, les groupes indigènes, etc. C'était en français et en espagnol. Et le Ferès avait, disons, déjà établi tout un réseau en Amérique latine. Et donc, c'est à travers aussi ces bouquins-là que je m'étais formé un peu une idée de ce qu'était l'Amérique latine, et disons, que je m'étais finalement branché sur un réseau embryonnaire qui est devenu de plus en plus important, parce que ce réseau-là, c'est le réseau des théologiens de la libération aussi. C'est les réseaux non seulement du péruvien Gustavo Gutiérrez, c'est le réseau aussi de Camilo Torres. Camilo Torres a publié un ouvrage dans cette collection Ferès. Et donc, c'est très important ce lien. Et j'avais parlé beaucoup avec Houtard, parce que j'hésitais, j'avais ces trois propositions, et Houtard m'a dit tout simplement, écoute, il vaut mieux que tu choisisses Santiago, parce que Santiago, c'est quand même un lieu à partir duquel, précisément, qui est un carrefour de réseau, et donc, politiquement, c'est plus intéressant, disons, de travailler dans cette perspective, dans ce contexte. J'avais, pour me rassurer aussi, pris contact à travers un ami qui étudiait avec lui, qui était mexicain d'ailleurs, qui habitait la cité universitaire. J'avais pris contact avec Pierre Mombeik. Et Pierre Mombeik était le géographe qui faisait partie, c'est ça qu'on voit, c'est très important dans les généalogies ça, ça fait partie de la construction de réseaux intellectuels, c'est que Mombeik faisait partie de la mission Lévi-Strauss, Braudel, Bastide. Il était le géographe, lui, de la mission. Et alors, lui, il m'avait dit, écoutez, oui, la meilleure décision, c'est le Chili aussi. Et il m'avait ajouté, lui, disons, il m'avait ajouté, écoutez, c'est quand même le pays aussi, en plus, qui est le plus stable politiquement. Alors, j'ai eu une stabilité pendant 11 ans, mais disons que, pendant 11 ans, effectivement, il y a eu une stabilité par rapport aux autres pays latino-américains. Après, il y a eu le coup d'État. Et donc, je suis parti en Amérique du Sud, je suis parti même en bateau en Amérique du Sud. Et, disons, j'ai travaillé, on m'a demandé carrément de fonder une chaire de démographie. Ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, la fac avait été créée, vous savez, avec des fonds de la Fondation Forte et de la Fondation Rockefeller, à ce moment-là, c'est très important. D'ailleurs, moi, la bourse que j'avais eue pour être engagé, c'était une bourse Rockefeller de 3 ans, de visiting professor, hein, et ça m'avait été, disons, proposé par le directeur de l'école de sociologie qui faisait partie, qui était au Chili depuis un certain temps, qui était un jésuite belge. Vous savez, les réseaux jésuitiques en Amérique, c'est fondamental. C'est fondamental dans toute l'histoire, disons, moderne, et même avant, rappelez-vous les réductions, etc. Alors, donc, je suis parti, et je suis arrivé en même temps, c'est très intéressant, d'un prof en communication de l'Université de Californie, siège Los Angeles, qui s'appelait Charles Wright. Et Charles Wright est celui qui a écrit le premier manuel sur la communication de masse, en fait. Un manuel qui servait beaucoup dans les universités américaines et qui avait été le prof d'un de mes collègues qui s'était formé aux États-Unis. Alors, moi j'arrive en même temps que le type qui doit créer une chaire en sciences, en ce moment-là, je ne sais, c'était sociologie de la communication. Moi, c'était en sociologie de la population, sociologie démographique. Et disons, la pratique même de recherche m'a amené progressivement à m'interroger sur, le soubassement idéologique, finalement, de la façon dont les fondations américaines et le gouvernement américain, rappelez-vous, c'était la période de l'Alliance pour le Progrès, finalement, posait cette question de diffusion des moyens anticonceptifs, finalement des politiques démographiques, dans le tiers-monde. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, c'était simplement l'expansion, l'extrapolation de toutes leurs pensées sur la sociologie de la modernisation. C'est-à-dire fondamentalement ce que, en matière de communication, exposaient des gens comme Everett Rogers. C'est-à-dire tout le diffusionnisme. C'est-à-dire tout ce qui a été mis en question par après, bien après, une trentaine d'années après pratiquement, par des gens comme Latour, etc. Bon. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, moi j'étais pris. Disons, mon champ scientifique et professionnel était pris dans cet étau, puisque en Amérique latine, les Américains dominaient ce domaine-là, puisque l'argent venait de chez eux. Et disons donc, c'est progressivement disons, à partir de mon métier de chercheur en, démographie, chargé de penser les politiques de population, que j'ai été amené à me coltiner la question des médias. La question des médias, ça renvoyait à la question des approches marketing de la diffusion des produits anticonceptifs. C'est-à-dire finalement des approches verticales qui font que finalement, votre client, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, votre client, vous ne vous intéressez pas, vous ne vous posez pas de questions sur votre client. Les seules questions que vous vous posez, c'est comment pouvoir l'atteindre. Pouvoir l'atteindre et des stratégies, ce sont des cibles. Ce sont des cibles. Disons, il y a eu tout un ensemble disons, les démographes américains, de ce point de vue-là, appliquaient d'abord certains types de, disons, avant d'élaborer, disons, leur campagne, disons, d'assister les campagnes pour la diffusion des produits anticonceptifs, ils faisaient un ensemble d'enquêtes pour sonder les attitudes des femmes par rapport à l'innovation, par rapport à la nouveauté. Et la nouveauté ici, l'innovation ici, c'était le produit anticonceptif. Comme ça pouvait être au niveau des agriculteurs, l'engrais, nouvelles machines, etc. Toute la question, c'est pas pour rien que la Fondation Rockefeller m'envoie là-bas et qu'en Inde, ils sont derrière, non seulement évidemment les plans de contrôle de planification familiale, mais aussi derrière le mythe, c'est eux qui le font, de la révolution verte. Alors, c'est finalement dans la critique aux approches diffusionnistes dans le domaine qui était le mien que je me suis rendu compte de l'importance des médias. Alors, la réponse, j'étais bien isolé, puisque ce qui est intéressant, c'est que je ne soupçonnais pas tous ces problèmes, et je ne soupçonnais pas non plus toutes ces approches, toutes ces constructions scientifiques qui avaient été élaborées par la sociologie américaine, parce qu'en France, c'était un problème qui n'existait pas. Disons que ça n'existait pas pour les modes de formation que j'avais à l'université. Moi, j'avais en anthropologie des gens comme Ballandier, j'avais des sociologues comme Gourvitch, comme Mauss, etc. Mais ces gens-là, jamais, je n'ai jamais eu, disons, je n'ai pas soupçonné qu'il pouvait exister, disons, tout ce champ de la sociologie moderne sur la modernisation appliquée finalement dans un cadre de rapport de force entre des peuples. Vous comprenez? Et alors pour moi ça a été une découverte tout ça. Et disons que en fait au niveau même de ma pratique démographique, il était évident que j'étais très isolé puisque c'était le premier démographe dans une école de sociologie au Chili. Et il y avait très peu de démographes à ce moment-là en Amérique latine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été engagé tout de suite à la sortie de l'université. Vous imaginez, j'avais 25 ans. Et donc, et chargé tout de suite d'une chaire, vous comprenez, de créer une chaire. Donc, c'est aussi pour ça que finalement, je me suis trouvé dans un champ où il y avait beaucoup, disons, je pourrais reprendre le terme, de beaucoup de possibilités de, disons, de construire des innovations. Mais des innovations alternatives. Alors, la seule réponse qui m'est venue, c'est finalement de proposer un type d'approche de toutes ces questions de diffusion, entre guillemets, des innovations, que ce soit en matière de réforme agraire ou en matière, disons, de planification familiale. La seule façon qui m'est venue d'approcher différemment ces choses-là, c'est à partir d'une optique plus anthropologique. Plus anthropologique. Et la première étude que nous avons réellement faite, en dehors des bouquins que j'ai écrits sur la démographie, les tables de mortalité, les mouvements de population, etc., la première étude que réellement on a faite, Michel et moi, c'est une étude sur précisément le rapport des femmes chiliennes, mais des différentes catégories. Et c'est multiple les différentes catégories, parce que à la campagne, par exemple, il y a les femmes qui vivent dans les latifundios, comme peones, hein, les familles des peones, mais aussi dans la campagne, il y a les minifundios, c'est-à-dire ceux qui ont de petites terres, qui sont tout autour. Ça dépend des régions. Il y a aussi des différences par région. Il y a des régions qui sont sèches, hein, et d'autres qui sont plus, disons, plus nourries en terres arables, etc. Alors, ce qui veut dire que nous avons fait une étude très vaste en préservant toutes ces catégories. Mais surtout les classes populaires. Les classes populaires dans les villes et finalement à la campagne. Mais disons, nous avons aussi étendu notre enquête à différents groupes de la classe moyenne. Pour savoir quelle était leur attitude face au changement. Et à l'intérieur du changement, il y avait évidemment cet élément, finalement, du nombre des enfants. Et finalement, c'est une étude, alors vous allez me demander, alors à ce moment-là, parce que vous avez quand même cette préoccupation, comment j'ai approché ça? La démographie, vous savez très bien comment, disons, quel était le modèle finalement que je critiquais. Et ici, en fait, je dois vous dire que je me suis fortement, puisque c'est Michel et moi, nous avons fait cette étude-là, c'est la première étude que nous avons fait réellement ensemble. Je vous parle là des années 64 à 68. Nous avions, c'est une méthodologie qui s'inspirait plutôt de l'approche ethnologique de l'école de Chicago. Mais l'école de Chicago, non pas directement venue des États-Unis, mais révisée et transformée, modifiée par une école d'ethnologie sociale française qui en fait a été complètement éteinte par les grands courants sociologiques, que ce soit Bourdieu, Touraine, etc. C'est Paul-Henri Chombard-Delos. Paul-Henri Chombard-Delos qui selon moi, dans le spectre des sciences sociales, dans l'éventail des sciences sociales françaises, occupe un lieu particulier, qui est un des premiers, finalement, à s'approcher de tous ces problèmes de la quotidienneté qu'essayaient de toucher les gens de l'école de Chicago dans les années 20. Et donc, notre étude était... Et il avait beaucoup travaillé ici en France, dès les années 60, dès les années 50, dès les années 60, sur l'image et le comportement des femmes. Et donc, notre première étude, ça a été celle-là. C'était une... Évidemment, dans cette étude, il y avait aussi une rubrique, il y avait une entrée, leur exposition aux médias, et leur rapport aux médias. Et disons que ça a été fondamental. Donc, mon approche, plutôt, pour les problèmes de communication, me vient de la démographie, mais... disons, en essayant de trouver, disons, un type d'approche avec lequel je n'avais pas nécessairement, pour lequel je n'avais pas été nécessairement formé. Je n'avais pas été nécessairement formé à l'université française. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y avait des traditions tout à fait différentes. Disons, c'est une époque aussi, disons, où les universités américaines intensifient beaucoup leur rapport avec l'Amérique latine. Alors, donc, ça a été un moment important. Mais il y a eu deux autres moments fondamentaux pour le basculement vers la question de la communication et l'abandon, en fait, des problèmes de population et de la sociologie de la population. Mais je dois vous dire que, je vais vous dire après en quoi consiste ce basculement, les deux événements, mais il y a eu quand même quelque chose d'important lorsque j'ai quitté la sociologie de la population, il y a un texte qui est important, la première lecture idéologique que j'ai faite tous les antécédents du structuralisme et tout ça, la première lecture idéologique, ça a été, ça a signifié mon abandon de la sociologie de la population, c'était mon dernier écrit là-dessus, c'était le texte qui me paraît fondamental, et encore aujourd'hui, sur l'essai sur le principe de la population de Malthus. Et c'est là que je me suis essayé à une lecture idéologique. Comment le texte de Malthus prédisposait déjà, disons, à une idéologie sur la masse, sur la masse, sur la populace comme finalement coupable de sa misère. Et donc, dans un contexte précisément où il pose la nécessité de contrôler les enfants des pauvres. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, ça a été un texte important et c'était le seul texte que j'ai publié dans une revue française de toute ma période chilienne, qui a duré 11 ans. Il a été publié dans la revue L'Homme et la Société. Il a été publié aussi en espagnol, mais enfin, dans d'autres revues. Alors c'est intéressant. Moi, disons, j'ai délaissé la démographie à partir de ce texte. Et je suis entré en dans ce qu'on appelait la sociologie de la communication. Quels sont les événements qui ont été importants dans ce basculement ? Il y a fondamentalement deux événements. Le premier, qui a donné d'ailleurs lieu à une étude, c'est, il faut dire qu'en 67 au Chili, il y a eu, ce qu'on pourrait dire, un mai étudiant. C'est-à-dire que les étudiants d'université où j'étais, qui était l'université à côté du Chili, se sont rebellés. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils ont demandé le co-gouvernement, comme on disait. Le co-gouvernement et, disons, un changement dans la façon dont on abordait, dont les cursus étaient construits. Et c'est ça a été une véritable irruption, une irruption que les journaux, le journal principal du Chili, qui était le journal de la bourgeoisie, qui a créé dans les années 1820, n'ont pas accepté. Et c'était le Mercurio, fondamentalement. Et disons qu'il y a eu toute une... pourquoi est-ce que c'était important, cette rébellion des étudiants ? Il faut dire que l'université académique, c'est une université qui formait depuis des décennies, depuis au moins la fin du 19e siècle, les élites. Les élites, surtout dans les... Souvent dans les universités académiques, ça a été comme ça, hein, dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Ils formaient des élites, et donc c'est comme c'était des fils qui appartenaient aux classes puissantes, finalement, qui se rebellaient. Et le Mercurio, évidemment, ne pouvait pas admettre ça. Et disons, de là, toutes ces stratégies argumentatives contre les agitateurs, contre les petits groupes comploteurs, etc. Et disons, le mouvement étudiant, puisque c'est le mouvement étudiant de la catholique, finalement, a riposté. Il a riposté en mettant une banderole à l'Alma Mater, sur le bâtiment de l'Alma Mater, le Mercurio miente. Le Mercurio ment. Et donc, l'offensive du Mercurio a été vraiment radicale, la condamnation radicale. Il faut dire qu'à ce moment-là, rappelez-vous, il y avait un mythe un peu partout dans le monde, qui était celui du pouvoir jeune. Et tout d'un coup, le pouvoir jeune prenait c'était l'émergence des jeunes. À ce moment-là, il y a eu tout ça. Et tout d'un coup, le pouvoir jeune prenait une figure qui ne correspondait pas au mythe du pouvoir jeune. C'était un pouvoir plutôt insurrectionnel, subversif par rapport, à l'establishment. Et donc, ça a été important. Il y a eu... Attendez une seconde, je vois...
Allô ? Pardon ? Oui, c'est ça, c'est au troisième, là.
Facteur. Alors oui, donc ça a été un moment important parce qu'il y a eu une énorme production de discours de la part du Mercurio et de tout le groupe Mercurio, aussi bien dans les revues pour les jeunes que dans les revues pour les femmes, c'est très intéressant, tout un discours contre finalement cette prise de l'université par les étudiants. Est-ce que ça va? Ça suit
quand même très bien. Ouais. Parfait.
Et ben, oui, je fais confiance pour la synthèse.
Oui.
Mais c'est toujours comme ça. On ne peut pas synthétiser tout de suite en vous disant 1, 2, 3, 4. C'est impossible. C'est sociologiquement, anthropologiquement impossible.
C'est tout à fait passionnant.
Alors, ça a été un événement important, c'est le premier. Là. Pourquoi est-ce qu'il a été important? Parce que, donc, en fait, le mouvement étudiant nous a demandé de travailler là-dessus. Parce qu'il ne voulait pas laisser passer cette offensive du Mercurio contre lui, ainsi. Et finalement, la rébellion des étudiants, la rébellion des étudiants a produit, disons, une véritable révolution dans l'organisation de l'université. Et c'est à ce moment-là que cette université, qui était plutôt conservatrice, même s'il y avait des gens ouverts à l'intérieur, qui était plutôt conservatrice, s'est ouverte sur la réalité nationale. C'est important, la réalité nationale. Et se sont créés plusieurs centres très critiques, à l'égard précisément de la façon dont le Chili était présenté dans les sciences sociales, etc. Pas seulement dans les sciences sociales, à tous les niveaux. Et il y a eu un centre qui a été créé qui s'appelait Centro de Estudios de la Realidad Nacional. Ça supposait que la réalité nationale n'avait pas été étudiée jusqu'alors. Et à ce moment-là, il faut dire que à ce moment-là, il y avait le contexte politique du Chili, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 60, c'était un gouvernement démocrate chrétien. Le gouvernement démocrate chrétien avait été élu, évidemment, par une alliance entre la démocratie chrétienne et la droite traditionnelle, utilisant très fortement le spectre, l'épouvantail cubain. Et disons que la démocratie chrétienne est un parti de masse. Ce n'est pas un parti, c'est un parti de masse. Elle a tout cet héritage de la, des années du fascisme italien. Hein, puisque c'est d'après un modèle, disons, et des inspirations italiennes que la démocratie chrétienne s'est implantée au Chili dans les années 30. Et donc, la clientèle de la démocratie chrétienne était une clientèle qui demandait autre chose à Frei que finalement des petites réformes. Et disons, pendant toute cette période-là, c'est-à-dire de 64 à 70, 70 Allende est élu, il y a des tas de contradictions qui apparaissent. C'est-à-dire que Frei, par exemple, propose une réforme agraire, distribution des terres à 100 000 personnes, à 100 000 familles, il ne le réalise que d'un quart. Il propose des plans de réforme aussi par rapport aux bidonvilles, etc. Bon. Tout ça crée une frustration qui fait que pendant toutes ces... à partir surtout des années 66, 67, 68 et 69, il y a un ensemble de contradictions qui fait qu'il y a des luttes sociales qui apparaissent partout. Et la lutte étudiante est aussi le produit de ces luttes-là. Mais il y a un autre point, il y a un autre événement qui est fondamental, qui est le second, qui est finalement les contradictions qu'il y a et qui apparaissent au grand jour, la contradiction dans un domaine qui est stratégique à ce moment-là dans toute l'Amérique latine, qui est le domaine de la réforme agraire. La réforme agraire. Alors, j'ai eu deux fronts. Le premier, c'était, disons, et ça a été notre première étude, en fait, une étude sur l'idéologie de la presse libérale. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était notre équipe, Michel en faisait partie, et puis une chercheuse argentine. Ça a été trois études. D'abord, l'étude sur la stratégie du Mercurio par rapport au mouvement étudiant, et par rapport à ce qu'on appelait à ce moment-là, ce qu'ils appelaient, eux, disons, le Mercurio appelait, le pouvoir jeune. Comment, finalement, le Mercurio, disons, traitait ce mythe qui devenait à ce moment-là presque universel, mais fondamentalement centré sur la question des étudiants, sur la question du mouvement étudiant et l'événement prise de l'université. Il y a eu ça. La seconde étude qui a été faite par Michel, c'était comment finalement les romans photos finalement drainaient un ensemble de valeurs, des analyses classiques structuralistes, un peu reprenant fondamentalement, et on peut revenir là-dessus, les approches de Barthes. Et ensuite, l'Argentine avait choisi ce qu'on appelait les Fans Magazine, les revues pour jeunes. Et donc, ça c'était notre première étude. Alors je dois vous dire, ça c'est très important au point de vue méthodologique, c'est qu'à partir de 67, il y a une rupture aussi par rapport à nos orientations. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus lié au mouvement étudiant, beaucoup plus à un mouvement social aussi, c'est-à-dire qu'on commence à être impliqué concrètement dans, finalement, dans une vie politique. Peut-être à partir d'un champ scientifique, mais dans un projet politique aussi. Et donc on est beaucoup plus lié, finalement, à toutes aux réflexions qui se mènent dans des partis ou dans des mouvements. Il faut dire qu'à ce moment-là, justement, cette contradiction de démocratie chrétienne provoque une rupture. Il y a une scission à l'intérieur de la démocratie chrétienne. Et le directeur du Centre de la réalité nationale est Jacques Chonchol, qui va être ministre de l'Agriculture d'Allende, et il sort de la démocratie chrétienne. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de contradictions qui affleurent. Alors, quelle méthodologie nous avons utilisée? En 68, j'ai eu l'occasion de revenir en France pour un mois de vacances. Et disons, 68, c'était fin 68. Et donc, dans les librairies, il y avait énormément de livres. Je me rappelle avoir acheté le bouquin sur la prise de parole de Certeau, le bouquin de Touraine sur le communisme et mai 68. Alors, ça va ? Alors, mai 68, et disons, on a acheté des bouquins d'abord sur mai 68, et puis tout ce qui circulait au niveau de la réflexion sur les idéologies et la culture. Et donc, aussi bien le structuralisme que finalement toutes les mises en question à l'intérieur du marxisme sur cette fameuse dichotomie entre l'infrastructure et la superstructure. Les mêmes questions, d'ailleurs, qui taraudaient les cultural studies, ou bien les Italiens aussi, etc. Bon, c'était vraiment un sens commun, toutes ces questions-là. Et donc, j'ai fait pour le Centre d'études de la réalité nationale chilien, un achat d'un nombre de livres que nous avons exportés. Et disons que la méthodologie que nous avons utilisée pour les analyses médiatiques était finalement issu de tout ce courant de recherche et d'études sur les médias en France. Mais il y avait une différence. Allô ? Allô ? Oui, c'est pourquoi ? Non, non, mais merci, je vous avons déjà des contrats, là. Je vous remercie. Non, non. Oui. écoutez, je vais vous passer ma femme alors, parce que là, c'est moi, j'en y connais rien du tout. Michel. Tu prends le téléphone ? Michel. Allô ? Attendez une seconde. Hein.
C'est à propos de quoi, pardon ?
Tu prends le téléphone ? C'est une personne d'Arca.
Mais je ne connais pas Armand. Tu sais, j'ai autre chose à faire en ce moment. Hein.
Non.
Demande-lui de quoi il s'agit d'abord.
Non, elle ne le connaît pas, écoute.
Demande-lui de quoi il s'agit.
Non, là, je crois que vous vous êtes trompé. Allez, au revoir.
Mais de quoi s'agit-il ? Je ne savais pas.
Non, ça doit être une démarcheuse pour des prêts financiers. Bien. Oh là là, il est vraiment. Alors oui, de quoi j'ai. Ah oui. Ah oui, il y avait quand même une différence fondamentale dans l'approche, disons, notre dissensus par rapport au structuralisme, c'est que le structuralisme s'enfermait dans des textes, s'enfermait dans des corpus, et nous, on trouvait ça incroyable, parce que c'était, on ne pouvait pas, dans les réalités où on vivait, disons, se contenter d'analyser des textes. On se demandait qui est-ce qui les produisait, quelle était la structure dans laquelle étaient ces émetteurs, et on se posait la question aussi, déjà, même si ce n'était pas l'objectif primordial de notre étude, comment ils étaient reçus. C'est seulement réellement sous l'unité populaire qu'on s'est vraiment posé cette question-là. Mais, enfin, donc...
Parce que dans le récit que vous faites, il y a un élément qui est parfaitement intéressant, c'est justement l'idée d'être finalement le parcours, d'en arriver aux médias avec l'idée du changement social.
C'est ça. Oui, ça je crois que c'est une constante. Avec toutes les contradictions à l'intérieur même de la définition du changement social.
Tout à fait. Et de l'aspect justement, l'aspect idéologique et des médias, et médiatique.
Ah, tout de suite.
Par les médias, et de justement cette dialectique avec le changement social.
Oui.
C'est un exemple que c'est tout à fait...
Alors, le second, je parlais du premier événement. Le second, je vous disais, c'était la question de la réforme agraire. Et pourquoi c'était important ? Là, c'est seulement avec le temps que je me suis rendu compte de l'importance du thème qu'on avait choisi dans les années 60. C'est seulement sous Allende que j'ai vu ça. Disons que la réforme agraire avait mécontenté tout le monde. Elle avait mécontenté les terratenientes, les latifondistes, qui finalement se voyaient quand même, malgré tout, expropriés de certaines terres, et elle avait mécontenté surtout les paysans. Que ce soit, il faut vous dire que c'est la première fois que les syndicats, ils avaient entendu plus de 100 ans, plus de 150 ans, disons, la première fois qu'a été autorisée la syndicalisation. La syndicalisation des paysans. Et ils se sont tous syndicalisés. Et donc il y a eu pas mal de bagarres, des prises de terre, des prises des tomates des tierces dans des occupations de terre de la part des paysans. Alors ce qui est intéressant, c'est l'insuffisance de la réforme agraire a permis, et c'est ça toute la mutation finalement d'une classe de latifondistes, a permis aux latifondistes, finalement, de reconstruire, de construire, finalement, un mode de résistance à la réforme agraire, en passant d'une idéologie traditionnelle, agrariste pratiquement, à un statut technocratique, se présentant comme les défenseurs d'une profession, des défenseurs, finalement, d'un champ d'activité économique. Vous comprenez, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que finalement, la grande transformation, et c'est ce que nous avons étudié les revues de la Société Nationale d'Agriculture. Il faut dire qu'au Chili, à la différence de l'Argentine, la classe dominante, la bourgeoisie chilienne, est une bourgeoisie qui finalement n'était pas... Il n'y avait pas une bourgeoisie agraire et une bourgeoisie industrielle. Hein, et une autre bourgeoisie commerciale. Les trois se convergeaient. Vous comprenez ? Ce n'étaient pas des isolats. Alors donc, ce qui a été important, c'est que l'idéologie de la Société nationale de l'agriculture, qui s'était transformée en technocrate finalement, était finalement une idéologie qui était susceptible d'être transposée dans d'autres secteurs d'activité. Et le noyau de cette idéologie, c'est le grémialisme. Et le grémialisme, c'est en fait défendre des intérêts personnels sous des formes d'intérêts corporatifs. Vous comprenez? C'est finalement, c'est une espèce de corporatisme. Mais il y a que le mot grémialisme est un mot propre en Amérique. Ce sont des gremios, c'est-à-dire des associations, mais des associations patronales aussi. Mais aussi, ça peut être de la petite bourgeoisie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'idéologie de la classe dominante s'est transformée pendant la période, et disons qu'elle a servi de banc d'essai et les a fournis, disons, a construit leur arsenal idéologique dont ils vont avoir besoin pour la construction d'un front contre le gouvernement d'Allende. Parce que, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que les grands agriculteurs, pendant la période de Frei, ont essayé de faire alliance, ont tendu la perche finalement aux petits agriculteurs et aux moins agriculteurs. Donc il y avait déjà l'idée d'un front. Et sous Allende, là je saute un peu, mais on reconstruira après si vous voulez, je saute un peu, sous Allende, qu'est-ce qui a fait la force de l'opposition, en dehors de la logistique apportée par les Américains, les agences de presse américaines, etc., la CIA, etc., et les militaires, ce qui est le modèle de résistance aux réformes d'Allende, c'est un modèle, qui est construit sur la nécessité de mobiliser dans la rue, une alliance entre les gremios patronaux et les gremios de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire la clientèle de la démocratie chrétienne. C'est-à-dire, ça commence avec les superviseurs du cuivre, hein, les grands techniciens du cuivre, et ça se termine par les collèges de dentistes, les collèges de médecins, etc. Et disons qu'une grande partie de cette organisation corporative de la société, finalement, bascule du côté de l'opposition. Donc finalement, l'intuition était bonne, mais c'était simplement, on ne se serait jamais douté, parce qu'on ne savait même pas qu'Allende allait être nommé, que finalement c'est un sujet stratégique. Donc c'était une double étude, une étude sur la question